Vous écoutez On lit pour vous.
Les dommages causés par les camions, un texte de Mathieu Perrault, paru le 25 août 2024 dans la presse. Gilles Boutin, un lecteur, demande « Quelle proportion de la dégradation des routes est due aux poids lourds ?» Presque la totalité, selon plusieurs études, et un professeur de génie civil de l'École de technologie supérieure, ETS. Même s'il y a beaucoup plus de voitures que de poids lourds, la responsabilité des poids lourds dans la dégradation de la chaussée est de presque 100%, explique Alan Carter de l'ETS. Même si, dans certains quartiers, on peut avoir aussi peu que 1% de poids lourds dans le total de la circulation, ça reste quand même significatif. C'est que la dégradation de la chaussée augmente très rapidement avec le poids. Un poids lourd, avec la charge maximale permise de 9000 kg sur l'essieu avant, causera 6500 fois plus de dommages qu'une camionnette F-150, avec 1000 kg par essieu, selon M. Carter. Il note que les autobus articulés peuvent aussi causer beaucoup de dommages à la chaussée parce qu'ils transportent plus de passagers par essieu qu'un autobus normal. C'est un peu comme donner un coup de cuillère sur un muret de briques comparativement à un coup de massue. Avec la cuillère, rien ne bouge, alors qu'avec la massue, le muret est endommagé, voire s'écroule. Même l'Association américaine du camionnage, ATA, admet que les camions causent beaucoup plus de dommages que les voitures. En 2018, elle a publié une étude qu'elle a commandée pour réfuter un chiffre régulièrement cité voulant qu'un poids lourd cause 9600 fois plus de dommages qu'une voiture. Cette étude concluait qu'un poids lourd cause plutôt 2000 fois plus de dommages qu'une voiture. Si on prend le cas extrême d'une rue résidentielle où les camions ne constituent que 0,1% de la circulation, si on postule que les camions causent 6500 fois plus de dommages que les voitures, ces dernières ne causent que 13% des dommages à la rue. Il y a environ 30 fois plus de voitures que de camions parmi les véhicules immatriculés, mais les camions représentent environ 9% du kilométrage, selon la dernière étude sur le sujet de Statistique Canada, publiée en 2010. Les camions de plus de 15 tonnes représentaient 6% du kilométrage. Subvention. Depuis 2 ans, 2 études ont estimé le coût réel de différents moyens de transport à Québec et à Montréal. Elles ont évalué le coût pour les propriétaires, achat d'une voiture ou d'une carte d'autobus, par exemple, et pour la société, dégradation des routes, pollution, congestion, ainsi que les subventions aux transports en commun et aux pistes cyclables, notamment. Or, ces 2 études ont postulé qu'un camion cause le même dommage à la chaussée qu'une voiture. Nous avons essentiellement utilisé les données de l'enquête Origine-Destination qui étudie les déplacements de la population, dit Jean Dubé, de l'Université Laval, auteur de l'étude sur Québec. Le transport par camion est donc exclu du portrait. Il n'entre donc pas dans le calcul que nous avons fait. Cette omission ne devrait pas changer beaucoup le constat que la voiture coûte plus cher à la société que les transports en commun, selon M. Dubé. C'est que la majorité des coûts pour la société sont causés par la pollution, la congestion et le coût foncier des routes. Pour calculer le coût foncier des routes, l'étude de M. Dubé compare les routes actuelles de Québec à une situation où chaque rue ou route n'aurait qu'une voie, sans voie de stationnement, simplement pour accéder au domicile, commerce, bureau et industrie. Les études sur les coûts de la mobilité à Montréal et à Québec se basent sur une méthodologie mise au point par Todd Littman, un urbaniste de la Colombie-Britannique qui a fait le calcul pour Vancouver. Je ne pense pas que les camions causent des milliers de fois plus de dommages que les voitures, dit M. Littman, qui dirige l'Institut des politiques de transport de Victoria, un groupe de réflexion indépendant. Et même si c'était le cas, le coût de la construction initiale d'une route doit être attribué aux voitures, au prorata de leur utilisation de la route. En savoir plus, source SAAC, 175 000 nombre de camions immatriculés au Québec en 2022, 5,9 millions nombre de voitures et camions légers immatriculés au Québec en 2022. C'était Les dommages causés par les camions, un texte de Mathieu Perrault, paru le 25 août 2024 dans la presse.
La tante du road trip, prête pour le divorce. Un texte de Vivian Wang et Joy Dong du New York Times, paru le 31 août 2024 dans la presse. Pékin. Depuis qu'elle a commencé à traverser la Chine en solitaire il y a 4 ans, laissant derrière elle un mari abusif et des attentes de longue date concernant les devoirs des femmes à la maison, Su Min, 60 ans, est devenue une sensation sur l'Internet connue sous le nom de « Tante du road trip ». Elle s'est rendue en voiture au pied du mont Everest et a campé sur la plage dans la province tropicale de Henan. Elle a figuré dans une campagne publicitaire sur l'émancipation des femmes et a inspiré un prochain film mettant en scène une célèbre actrice chinoise. Mais l'une des étapes clé de l'émancipation de Mme Su lui a échappé. Elle hésitait à demander le divorce, inquiète des conséquences pour sa famille. Jusqu'à aujourd'hui. En juillet 2024, Mme Su a officiellement entamé une procédure de divorce. Sa décision, dit-elle, témoigne du fait qu'elle a appris à s'engager pour son propre bonheur et de la confiance en soi qu'elle a acquise sur la route. Mais l'expérience qu'elle a vécue en essayant de mettre fin à son mariage montre également les nombreux obstacles à l'indépendance auxquels les femmes chinoises font encore face. Le mari de Mme Su a d'abord refusé de divorcer et une bataille juridique s'annonçait. Des études montrent que, dans les cas de divorce contestés, les juges rejettent souvent les demandes ou obligent les couples à recourir à une médiation qui désavantage la femme et qu'ils ignorent souvent les allégations de violence domestique. Ce n'est que lorsque Mme Su a accepté de payer à son mari l'équivalent de 30 000 $ qu'il a cédé, dit-elle. « C'est tout ce que j'ai. Comment pourrais-je ne pas être bouleversée ?» a déclaré Mme Su lors d'une interview quelques jours après avoir négocié l'accord. Elle était garée près de la ville de Guiyang, dans le sud-ouest de la Chine, où elle avait récemment visité un parc de sculptures niché au milieu de collines verdoyantes. Elle a ajouté que, même si l'argent est très important, la liberté l'est encore plus. Mme Su a commencé à vloguer après avoir quitté son domicile de Zhengzhou, une ville du centre de la Chine, en septembre 2020. Entre les images de lacs turquoise et de champs vallonnés, elle explique pourquoi elle, ouvrière d'usine à la retraite ayant fait des études secondaires, a finalement décidé de voler de ses propres ailes. Elle en avait assez de vivre pour les autres, de supporter les exigences de son mari et d'assumer les tâches ménagères. Pendant des décennies, elle a cru que c'était ainsi que les femmes vivaient, mais elle était enfin prête à changer. À sa grande surprise, ses vidéos sont devenues virales. Dans tout le pays, des femmes ont déclaré s'être vues ou avoir vu leur mère dans son histoire et l'ont encouragée à la réécrire. Icône accidentelle. Mais alors même que Mme Sou devenait une icône accidentelle de l'éveil des femmes, elle a déclaré qu'elle ne voulait pas divorcer. Elle craignait que la responsabilité de s'occuper de son mari ne retombe sur sa fille si elle le quittait. De plus, le divorce était encore stigmatisé par les générations plus âgées et la mère de Mme Sou s'y opposait. Peu à peu, cependant, Mme Sou a commencé à reconsidérer la question. Lorsque son mari s'est rendu compte qu'elle gagnait de l'argent grâce à ses vlogs, il lui a demandé de l'argent, dit-elle, et elle craignait que cela continue si elle ne se retirait pas de la relation. Sa fille l'a exhortée à penser à elle en premier en lui disant « Tu as tant donné à notre famille. » « Chaque fois que j'en parle, j'ai envie de pleurer », a déclaré Mme Sou. Pourtant, la décision de divorcer n'était que la première étape. Le mariage, fondement de la stabilité sociale en Chine. La loi chinoise reconnaît la violence domestique comme un motif de divorce unilatéral et Mme Sou a essayé de faire valoir son point de vue. Elle a filmé une dispute entre elle et son mari, au cours de laquelle il a admis l'avoir frappée dans le passé et a également demandé l'équivalent de 95 000 $ canadiens pour accepter le divorce. Mais un avocat lui a dit qu'elle aurait besoin de plus de preuves comme des dossiers d'hôpital. Selon Kelly, professeur à la City University of New York, qui a étudié le divorce en Chine, même lorsque les preuves sont nombreuses, les juges statuent rarement sur l'existence de violences domestiques. Les tribunaux s'efforcent toujours de protéger l'intégrité du mariage plutôt que les droits des femmes, car le gouvernement considère le mariage comme le fondement de la stabilité sociale. Si Mme Sou ne pouvait pas compter sur un constat de violence domestique, elle voulait éviter d'aller au tribunal parce qu'un juge lui ordonnerait probablement de partager ses biens avec son mari, y compris les droits sur ses comptes de médias sociaux. Cela signifierait qu'elle devrait partager avec lui la plateforme même qui lui avait donné la confiance nécessaire pour s'en aller. Mme Sou a refusé. « Ce qui m'a sauvée, dit-elle, dans une vidéo où elle annonce son intention de divorcer, ce n'est pas seulement moi, mais aussi le soutien constant et la compagnie de mes fans sur ce compte. C'est la chose dont je suis le plus fier dans ma vie. Je ne peux pas la lui donner. » Après des négociations, son mari a accepté de divorcer sans passer par le tribunal pour 22 000 $. Ce mois-ci, Mme Sou est chez elle, à Zhengzhou, pour finaliser les formalités administratives. Mais elle prépare déjà sa prochaine destination. Elle n'est jamais allée à l'étranger et a hâte de voir la Suisse et Paris. Une fois les formalités administratives terminées, je pourrai partir n'importe quand. C'était la tante du road trip prête pour le divorce, un texte de Vivian Wang et Joy Dong du New York Times, paru le 31 août 2024 dans la presse.
La rentrée littéraire 2024, essai à surveiller. 5 propositions de lecture de Chantal Fontaine, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Témoins de notre époque, les auteurs et les autrices d'essais tentent de l'expliquer selon des angles ou des prémices propres à leurs expertises. Au Québec, la pensée essayistique est forte, nuancée et originale. Elle se confronte et se déploie au sein d'un lectorat ouvert et critique. Portrait d'un automne riche de livres aux horizons multiples et inspirants qui, on l'espère, nous ferons mieux comprendre le monde. 5 titres à surveiller. 1. Ordures, journal d'un vidangeur. Simon, Paris-Poupard, chez Lux. Vidangeur depuis une vingtaine d'années, par choix, puisqu'il détient des diplômes qui auraient pu l'amener ailleurs, Simon Paré-Poupard brosse un portrait sans complaisance du contenu de nos poubelles et de la société de consommation. Avec humour, son journal d'un vidangeur propose une véritable incursion au cœur de cette communauté de travailleurs invisibles et nous invite à porter attention à leurs idées sur la gestion de nos déchets. Une réflexion certes insolite, mais non moins pertinente sur des gestes quotidiens, anodins, mais pas sans conséquences. 2. L'Ebola, les bombes et les migrants. Dr Joanne Liu et André Pratt, chez Libre Expression. La Dr Joanne Liu a présidé et œuvré au sein de Médecins sans frontières, où elle a affronté plus d'un virus et traversé maints conflits. Son expérience du terrain a façonné son jugement et lui permet un regard critique sur les chemins tortueux de l'immigration et sur les tensions au sein de pays fragilisés par des conflits. Elle témoigne du désintérêt envers les personnes vulnérables et de la désolidarisation suscitée par le besoin irrépressible de nos sociétés de se bâtir une sécurité, bien souvent illusoire. Écrite par André Pratt, la vie de la Dr Liu est décidément fort inspirante. 3. Nexus, une brève histoire des réseaux d'information de l'âge de pierre à l'IA. Yuval Noah Harari. Traduction David Fockenberg chez Albin Michel. Ce quatrième ouvrage de l'historien et philosophe Yuval Noah Harari s'attaque à l'omniprésence de l'information, à nos accès directs à l'actualité et surtout à notre capacité à distinguer la vérité. S'attardant à la façon dont les gouvernements infiltrent les réseaux et diffusent l'information, il utilise la mythologie, la Bible et les différents courants de pensée à travers l'histoire afin de saisir la source de ces comportements. Nexus nous invite à réfléchir à la portée de nos actes, à l'époque où l'intelligence artificielle se pointe et menace l'équilibre du monde. 4. Vivace, carnet d'autonomie élémentaire. Dominique Lamontagne, chez Leméac. La collection Territoire, dirigée par Marc Séguin, offre une voix à ceux et celles qui, justement, façonnent ces territoires. Son premier titre, Vivace, oscille entre un journal et un carnet de bord. Pendant plus d'un an, on suit cet artisan fermier dans ses routines et ses aventures journalières, où se côtoient les imprévisibilités de l'agriculture et les aléas ordinaires. Dominique Lamontagne nous ouvre sa vie et sa ferme afin de nous faire saisir l'importance de nous réapproprier nos terres, notre alimentation, et de tendre vers la communauté. Une voix authentique, rafraîchissante par sa force et bouleversante par son humilité face à la nature. 5. Solitude, une décennie de réflexion féministe. Marie-Lise Hamelin, chez Somme toute. Les textes de Solitude témoignent de l'évolution de la pensée de l'autrice depuis la dernière décennie, autant que des transformations sociétales opéré en autant de temps. Investie et passionnée, Marie-Lise Hamelin raconte également les jours plus difficiles du militantisme, de cette fatigue chronique à revendiquer, de ces coups dans l'eau qui semblent futiles, mais qui, ultimement, parviennent à faire avancer la cause. Solitude propose une rétrospective des luttes féministes et célèbre fièrement leurs acquis, tout en soulignant à quel point chaque pas en avant traduit des efforts constants. C'était la rentrée littéraire 2024, essai à surveiller. 5 propositions de lecture de Chantal Fontaine, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
Fabrice Nguéna fait briller les Afro-queers. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 16 juin 2024 dans le magazine Fugue. Lancée au Québec et dans plusieurs pays européens depuis un mois, le livre Afro-queer, Éco-société, fait le portrait de personnes queer afro-descendantes des milieux sportifs, culturels, communautaires, militants, intellectuels et politiques, afin que les communautés noires et queer se réapproprient leur fierté et leurs histoires. Fugue s'est entretenu avec son auteur, Fabrice Nguéna. Veux-tu te présenter aux personnes qui lisent le magazine? Je suis né en Suisse de parents camerounais et j'ai grandi au Cameroun, en Afrique. Je suis arrivé à Montréal en 2007 et j'ai travaillé dans les assurances dans une autre vie. Parallèlement, j'ai toujours été militant pour les droits humains, militant LGBTQ+, et plus précisément afro-queer. J'ai été impliqué dans l'organisme Arc-en-ciel d'Afrique, qui n'existe plus malheureusement. J'ai aussi été à Gris-Montréal et je travaille actuellement avec la Fondation Émergence. Dans le livre, j'ai noté une phrase magnifique disant que le pouvoir de façonner nos histoires repose sur la compréhension de ce que nous sommes en tant que sujet historique. À quel point les personnes afro-queer ne connaissent-elles pas suffisamment leur histoire, selon toi? Pas seulement les personnes afro-queer, mais les personnes noires colonisées en général, parce que notre histoire a été effacée quand les colons sont arrivés en Afrique. Après des siècles, les gens oublient que les sociétés africaines étaient inclusives et bienveillantes. Les Africains ont oublié que l'homophobie n'existait pas en Afrique. C'est la colonisation avec la religion monothéiste et les lois comme le Code civil de Napoléon chez les francophones et la loi anglaise qui se sont installées en entraînant avec eux l'homophobie. D'ailleurs, en Afrique du Sud, lorsque l'ANC, le parti de Nelson Mandela, a pris le pouvoir il y a 30 ans, ils ont décolonisé la Constitution, ce qui a entre autres permis la décriminalisation de l'homosexualité, car ça ne correspond pas à leur valeur respecter les libertés individuelles. Aujourd'hui, on doit absolument déconstruire ces préjugés coloniaux. Tu cites James Baldwin qui a dit devoir vomir toutes ces saletés qu'on m'avait dites sur moi. Comment les personnes afro-queer intègrent-elles une vision négative d'elles-mêmes? Elles se retrouvent prises dans deux systèmes d'oppression, le racisme et les queerphobies. Nous avons assimilé des idées négatives sur nous pendant des siècles. À l'école, on lisait des ouvrages produits par l'Occident et nous avons avalé ces idées négatives par l'éducation et même par nos parents. On en venait à détester notre queerness, la couleur de notre peau, la texture de nos cheveux et des caractéristiques propres à notre culture. Maintenant, on doit décoloniser nos esprits. Ça va prendre du temps. Il va falloir écrire notre propre histoire, celle avant la colonisation, comme le font plusieurs peuples autochtones. On est dans un point de bascule. Aujourd'hui, les gens sont fiers de dire qu'ils sont noirs pour revendiquer une identité particulière. tu fais le portrait de personnes d'horizons très différents qui sont actives dans le sport, les arts, le milieu communautaire, le militantisme et la politique. Quelle est la valeur de cette représentation? Le but du livre est d'offrir des modèles qui n'existaient pas dans la communauté noire francophone queer. Les anglophones noirs ont la chance d'avoir les James Baldwin et Audre Lorde, mais ils sont très rares en français. On a pourtant besoin de se lire pour acquérir la fierté dont on parlait. J'ai voulu diversifier les professions des personnes dont je parle pour montrer qu'on peut être noir, LGBTQ+, et accéder à tous nos rêves. Tu expliques aussi comment ces personnes ont appris à utiliser leur voix. L'un des éléments qui m'a poussé à écrire ce livre est la marginalité des personnes afro-queer, non seulement quand elles vivent en Occident, mais également en Afrique. Souvent, les hommes politiques disent que l'homosexualité n'existe pas dans leur pays. Ils refusent de la voir. Au fond, les gens ne sont pas invisibles, mais on ne les voit pas. Leurs voix ne sont pas inaudibles, on ne les écoute pas. Comment expliques-tu le concept de la double discrimination? J'ai vécu le racisme jusque dans mon travail et j'ai porté plainte à la Commission des droits de la personne. Je suis queer et j'ai vécu l'homophobie, même à Montréal. On subit cette double discrimination de plein fouet en Occident. En Afrique, c'est encore plus fort. L'année dernière, 12 pays ont renforcé leurs lois pour criminaliser davantage. L'Ouganda a une loi qui va jusqu'à la peine de mort. Il y a de la discrimination de la part de plusieurs personnes blanches et hétéros cisgenres, mais également au sein des communautés noires. Bayard Rustin évoque d'ailleurs une certaine hypocrisie de plusieurs personnes noires envers d'autres personnes noires, particulièrement les afro-queers. Comment se vit cette situation? C'est une double trahison. Bayard Rustin a défendu les Afro-Américains. Il est monté en première ligne pour se battre pour les droits civiques pour tous. Mais en raison de son homosexualité, il a été effacé du récit afro-américain. Tout comme James Baldwin, car il était afro-queer assumé. Ce n'est que maintenant qu'on est en train de les réhabiliter. C'est pour cette raison qu'à la fin du livre, je m'adresse aux communautés noires. Je leur dis qu'on ne peut pas lutter contre le racisme et le colonialisme en matinée et, rendu le soir, discriminer les personnes queer, les femmes ou les personnes albinos de nos propres communautés. C'était « Fabrice Nguena fait briller les afro-queer », une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 16 juin 2024 dans le magazine Fugue.